Merlin Holland, petit-fils d'Oscar Wilde.
Ayant lu les lettres de Wilde, le caractère de mon grand-père, c'est les lettres de Wilde, c'est son autobiographie. Il a dit, par exemple, dans une lettre juste après la publication de Dorian Gray, Basil Hallward, le peintre, c'est comme moi je me conçois.
Ça peut pas faire de mal.
Lord Henry, c'est comme me voit le monde. Dorian Gray, c'est comme je voudrais bien être dans une autre temps, peut-être. Alors, il voit, lui, des parties de tous ces trois personnages dans son propre caractère. Quand vous pensez que vous avez saisi le caractère de Wilde, il vous échappe.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
L'artiste est celui qui crée des choses de beauté. Révéler l'art et dissimuler l'artiste, tel est le but de l'art. Il n'existe pas de livres moraux ou immoraux. Les livres sont bien écrits ou mal écrits, c'est tout. L'artiste n'a pas de préférence morale. L'artiste n'est jamais morbide, l'artiste peut tout exprimer. Le vice et la vertu sont pour l'artiste le matériau de son art. Du point de vue de la forme, l'art du musicien est typique de tous les arts. Du point de vue de l'émotion, c'est le métier de comédien qui est typique. Des opinions différentes au sujet d'une œuvre d'art montrent que cette œuvre est neuve, complexe, vitale. Quand les critiques ne sont pas d'accord entre eux, l'artiste est en accord avec lui-même. On peut pardonner à l'homme d'accomplir une œuvre utile à condition qu'il ne l'admire pas. La seule excuse d'une œuvre inutile, c'est qu'on l'admire intensément. Tout art est complètement inutile. Ces aphorismes au ton provocateur sont les réponses d'un grand auteur de la seconde moitié du XIXe siècle aux critiques qui se sont déchaînées contre son seul et unique roman, Le portrait de Dorian Gray, l'œuvre la plus célèbre et la plus controversée d'Oscar Wilde. Né à Dublin en 1854, l'écrivain publie d'abord des poèmes, puis se fait connaître comme dramaturge sur les scènes londoniennes. Il voyage ensuite aux États-Unis où il donne des conférences sur l'art. Il aurait dit lors de son passage à la douane « Je n'ai rien à déclarer excepté mon génie ». C'est d'ailleurs un Américain, rédacteur en chef du Limping Court Magazine, qui lui commande un texte pour sa revue. Ce sera le portrait de Dorian Gray. Dès sa première publication en juin 1890, la presse s'envenime. Le portrait de Dorian Gray est du faux art. Il est faux pour la nature humaine car son héros est un monstre. Monsieur Wilde a de l'esprit, de l'art, du style, mais s'il ne peut écrire que pour les nobles hors la loi et les petits télégraphistes pervertis, plutôt il prendra le métier de tailleur, mieux cela vaudra pour sa réputation personnelle et pour la moralité publique. En pleine époque victorienne, le roman d'Oscar Wilde choque par son éloge de l'homosexualité et par les mœurs immorales de son héros, un jeune dandy narcissique et orgueilleux qui, comme Faust, vend son âme au diable en échange de la jeunesse éternelle. Curieusement, l'œuvre précède le scandale. C'est l'année suivante, en 1891, année de la seconde publication du récit sous forme de livre, qu'Oscar Wilde rencontre Lord Alfred Douglas, qui devient son amant. Leur relation tumultueuse attise la polémique. En 1895, le père d'Alfred Douglas, le marquis de Queensberry, intente un procès à Oscar Wilde, qui est condamné à 2 ans de prison. Humilié et anéanti, l'écrivain vit ensuite une vie d'errance et de misère. Il meurt à Paris en 1900. Ce soir, feuilletons quelques pages du portrait de Dorian Gray. Ce roman à l'image de son héros, à la fois lumineux et sombre, aux propos prémonitoires, conduisant un beau jeune homme au crime. Commençons par le portrait du héros et sa terrible révélation. Le roman s'ouvre dans l'atelier d'un peintre, Basil Hallward, qui reçoit la visite d'un ami, Lord Henry Wotton, à qui il montre sa dernière œuvre, le portrait d'un magnifique jeune homme. C'est ton chef-d'œuvre, Basil, la meilleure chose que tu aies jamais faite, s'exclame Lord Henry. La conversation est bientôt interrompue par l'arrivée du modèle, Dorian Gray en personne, venu poser pour les dernières retouches du tableau. Lord Henry le regarda. Pas de doute, il était merveilleusement beau, avec ses lèvres écarlates à la fine courbure, ses yeux bleus et francs, sa chevelure bouclée et dorée. Quelque chose dans son visage inspirait une confiance immédiate. Toute la candeur de la jeunesse était là, aussi bien que sa pureté passionnée. On sentait qu'il ne s'était pas laissé maculer par le monde. Rien d'étonnant que Basil Hallward lui vouât de la vénération. Dorian Gray posa le pied sur l'estrade avec l'air d'un jeune martyr grec, en adressant une petite moue d'ennui à Lord Henry qui lui plaisait assez. Il était si différent de Basil, et il avait une si belle voix. Vous jouissez d'une jeunesse des plus merveilleuses, et la jeunesse est tout ce qui compte, dit Lord Henry avec son sourire subtil.
Je n'en ai pas le sentiment, répondit Dorian.
Non, pas maintenant, mais un jour quand vous serez vieux, ridé, laid, vous en aurez le sentiment, et il sera terrible. En ce moment où que vous alliez, le monde succombe à votre charme, en sera-t-il toujours ainsi? Vous avez un visage étonnamment beau, monsieur. Ne froncez pas le sourcil, c'est vrai. Or, la beauté est une forme de génie. En fait, elle est supérieure au génie parce qu'elle se passe d'explications. Elle fait prince tous ceux qui la possèdent. Vous souriez. Ah, quand vous l'aurez perdue, vous ne sourirez plus. Les gens disent quelquefois que la beauté n'est que superficielle. Seules les personnes qui manquent de profondeur ne jugent pas d'après les apparences. Le vrai mystère, c'est le visible et non l'invisible. Oui, monsieur, vous êtes l'enfant chéri des dieux, mais les dieux reprennent vite leurs cadeaux. Vous n'avez que quelques années à vivre réellement, parfaitement, pleinement. Le temps est jaloux de vous et guerroie contre vous. Chaque mois qui décline vous rapproche de l'horreur. Vous aurez le teint jaune, les joues creuses, les yeux ternes. Vous souffrirez horriblement. Ah, mettez votre jeunesse à profit tant que vous la possédez. Vivez, vivez la vie merveilleuse qui est en vous. Soyez toujours à la recherche de sensations nouvelles. N'ayez peur de rien. Un nouvel hédonisme, voilà ce dont notre siècle a besoin. Vous pourriez en être le symbole visible. Pour une raison, le monde vous appartient. Dès que je vous ai vu, j'ai su que vous n'étiez pas conscient de ce que vous étiez ni de ce que vous pourriez être. Tant de choses m'ont charmé en vous que j'ai senti que je devais vous parler de vous, car votre jeunesse durera si peu de temps, si peu de temps. Nous dégénérons en de hideuses marionnettes, hantées par le souvenir de tentations exquises auxquelles nous n'avons pas eu le courage de céder. Jeunesse, jeunesse. Il n'existe absolument rien au monde que la jeunesse. Dorian Gray écoutait, les yeux écarquillés, perplexe. Pendant près de 10 minutes, il se tint là, immobile, les lèvres entrouvertes et les yeux luisants étrangement. Les mots que lui avait dit l'ami de Basil avaient effleuré en lui une corde secrète qui n'avait jamais été touchée plus tôt, mais qui, il le sentait, vibrait et palpitait maintenant au rythme d'un pouls étrange. Des mots. Rien que des mots. Mais qu'ils étaient donc redoutables. On ne pouvait leur échapper. Dorian détourna la tête. Il avait peur de Lord Henry et il se sentait honteux d'avoir peur de lui. Il y avait des mois qu'il connaissait Basil Hallward, mais leur amitié ne l'avait jamais modifié. Soudain, il était venu quelqu'un dans sa vie qui semblait lui en avoir dévoilé le mystère. Au bout d'un quart d'heure environ, Hallward s'arrêta de peindre, mordillant la pointe d'un de ses pinceaux. Cette fois, c'est fini. S'écria-t-il enfin. Lord Henry vint examiner le tableau. C'était indéniablement une œuvre d'art magnifique et la ressemblance était étonnante aussi. « Mon cher, je te félicite très chaleureusement, dit-il. C'est le plus beau portrait des temps modernes. Monsieur, venez donc voir par vous-même. » Le jeune homme sursauta comme éveillé d'un rêve. Il passa nonchalamment devant le tableau, puis se retourna. Quand il le vit, il se rejeta en arrière et sa joue se colora un instant de plaisir. Une expression de joie surgit dans ses yeux comme s'il s'était reconnu pour la première fois. Le sentiment de sa propre beauté lui était venu comme une révélation. Il ne l'avait jamais éprouvé auparavant. Les compliments de Basil Hallward ne lui avaient semblé être que les exagérations charmantes de l'amitié.
Et puis était apparu Lord Henry Wotton, avec son étrange panégyrique de la jeunesse et ses terribles avertissements. Cela l'avait ému. Et maintenant il contemplait l'ombre de sa propre beauté. Il découvrait en un éclair que la description en était vraie. Oui, un jour viendrait où son visage serait ridé et rabougri, sa silhouette gracieuse cassée et difforme. L'écarlate quitterait ses lèvres et l'or disparaîtrait de sa chevelure. Il deviendrait affreux, hideux, insortable. Tandis qu'il y pensait, un vif élancement de douleur le transperça comme un couteau. Ses yeux se couvrirent d'une brume de larmes. Il sentait une main de glace posée sur son cœur. « Comme c'est triste !» murmura Dorian Gray, les yeux toujours fixés sur son propre portrait. « Comme c'est triste, je deviendrai vieux, horrible, hideux. Mais le portrait restera toujours jeune. Si seulement c'était le contraire, si c'était moi qui restais toujours jeune et que ce fut le portrait qui vieillit. Pour cela, je donnerais n'importe quoi. Oui, il n'y a rien au monde que je ne donnerais. Je donnerais mon âme pour cela. Lord Henry Wotton a parfaitement raison. La jeunesse est le seul don qui vaille la peine d'avoir. Quand je découvrirai que je vieillis, je me tuerai. » Découvrons à présent le portrait de celle qui va conquérir le cœur du bel Adonis. Un mois plus tard, Dorian Gray est devenu un proche de Lord Henry Wotton, qu'il surnomme Harry. Mais un soir, Dorian Gray lui confie qu'il est amoureux d'une actrice, rencontrée dans un théâtre miteux des bas quartiers de Londres. Harry ne peut s'empêcher de donner libre cours à sa misogynie. « De qui es-tu amoureux ?» demanda Lord Henry. « D'une actrice, » dit Dorian Gray en rougissant. « Ce sont des débuts assez ordinaires, » dit Lord Henry en haussant les épaules. « Tu ne le dirais pas si tu la voyais, Harry. Qui est-ce ? » ?»« Elle s'appelle Sibyl Vane. Jamais entendu parler d'elle. Personne n'a entendu parler d'elle. Mais un jour, cela arrivera, c'est un génie. » »« Mon cher vieux, il n'y a pas de femme géniale. C'est un sexe décoratif. Les femmes n'ont jamais rien à dire, mais elles le disent de façon charmante. Et où l'as-tu déniché ? » ?»« Je veux bien te le dire, Harry. Après tout, cela ne serait pas arrivé si je n'avais pas fait ta connaissance. » Tu m'as rempli du désir fou de tout savoir sur la vie. Donc un soir vers 7 heures, je décidai d'aller chercher l'aventure. Je suis sorti et me suis dirigé vers l'est. L'idée du danger me ravissait. Bientôt, je me suis perdu dans un labyrinthe de rues crasseuses. Je passais devant un ridicule petit théâtre où l'on jouait Roméo et Juliette. Tu vas te moquer de moi, mais je suis entré. Aujourd'hui, je ne sais toujours pas pourquoi j'ai fait cela. Et pourtant, si je ne l'avais pas fait, Harry, j'aurais manqué le plus grand amour de ma vie. Je vois que tu ris. Tu es horrible. Je ne ris pas, Dorian, ou du moins pas de toi. Mais tu ne devrais pas dire le plus grand amour de ta vie. Tu devrais dire le premier amour de ta vie. Ceci n'est que le début. Tu seras toujours aimé, seras toujours amoureux de l'amour. Ce que l'on appelle fidélité, je l'appelle, moi, léthargie de l'habitude ou manque d'imagination. La fidélité dans la vie affective, c'est un aveu d'échec. Mais je ne veux pas t'interrompre. Continue ton récit. Harry, imagine une jeune fille d'à peine 17 ans, avec un petit visage en forme de fleur, une mince tête grecque avec des rouleaux tressés de cheveux châtain foncé, des yeux violets, profonds comme des puits pleins de passion, des lèvres ressemblant à des pétales de rose. C'était ce que j'ai vu de plus ravissant de toute ma vie. Et sa voix... Jamais je n'ai entendu une telle voix. Dans la scène du jardin, elle s'emplit de cette extase palpitante qu'on entend juste avant l'aube, quand les rossignols chantent. Tu sais à quel point une voix peut m'émouvoir. Ta voix, et la voix de Sibyl Vane, je ne les oublierai jamais. Pourquoi ne l'aimerais-je pas ? Harry, je l'aime. Elle représente toute la vie pour moi. Soir après soir, je vais la voir jouer. Un soir, elle est Juliette, le lendemain, elle est Rosalinde. Je l'ai vue qui errait par la forêt d'Ardenne, déguisée en joli garçon avec haute chose, pourpoint et chaperon coquet. Je l'ai vue à toutes les époques et avec tous les costumes. Les femmes ordinaires ne suggèrent jamais rien à notre imagination. Aucune n'a de mystère. Elles sont si évidentes. Mais une actrice. Quelle différence, Harry, une actrice. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que les actrices étaient seules dignes d'être aimées ? Oh, parce que j'en ai aimé beaucoup, Dorian. Ah oui ? Des horreurs avec des cheveux teints et le visage peint. Ne dis pas de mal des cheveux teints et des visages peints. Ils ont quelquefois un charme extraordinaire, dit Lord Henry. Je regrette maintenant de t'avoir parlé de Sibyl Vane. Sibyl Vane est sacrée. Pourquoi te froisser, Dorian? Seul ce qui est sacré vaut qu'on y touche. Je suppose qu'un jour ou l'autre, elle t'appartiendra. Quand on est amoureux, on commence par se tromper soi-même et on finit par tromper l'autre. C'est ce que le monde appelle une relation romanesque. Harry, ta façon de voir les choses m'effraie. Mais je ne peux pas m'empêcher de te dire les choses. Tu as une curieuse influence sur moi. Si jamais je commettais un crime, je viendrais te le confesser et tu me comprendrais.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Il y a dans ma maison quelqu'un dont je me méfie, qui me défie, qui s'assied à ma place, qui me ressemble comme un frère, qui respire mon air. L'ennemi dans la glace, dont le regard me glace, sourit mais je le connais bien. L'ennemi dans la glace, dont le regard
Voici maintenant le premier crime passionnel que commet bientôt notre héros. Éperdument amoureux, Dorian invite ses amis, Lord Henry et Basil Hallward, au théâtre pour y découvrir l'objet de sa passion. Mais le soir de la représentation, Sibyl Vane semble avoir perdu tout talent et quitte la scène sous les huées d'un public clairsemé. Fou de rage et honteux devant ses amis, Dorian se précipite dans la loge de l'actrice. Voici leur scène de rupture. « Dorian, » fit-elle en prenant du temps pour baigner ce prénom de la musique de sa voix. « Dorian, vous auriez dû comprendre. Mais vous comprenez maintenant, n'est-ce pas ?»« Je comprends quoi ?» demanda-t-il avec colère. « Pourquoi j'ai été si mauvaise ce soir ? Pourquoi je serai toujours mauvaise ? Vous êtes malade, je suppose, » dit-il en haussant les épaules. « Vous ne devriez pas jouer quand vous êtes malade. Vous vous ridiculisez. Mes amis se sont ennuyés. Je me suis ennuyée moi-même. » Elle ne semblait pas l'écouter. Elle rayonnait d'un secret qu'elle était seule à connaître. « Dorian, Dorian, » s'écria-t-elle, « quand je ne vous connaissais pas, rien n'était réel dans ma vie, sauf jouer. Je ne vivais que sur la scène. Je croyais que tout y était pour de vrai. Les décors formaient mon univers. Ce soir, pour la première fois de ma vie, j'ai découvert le vide, la fausseté, la bêtise de l'insipide spectacle où j'avais toujours joué. Vous m'avez apporté quelque chose de plus noble, quelque chose dont tout l'art n'est qu'un reflet. » Vous m'avez fait comprendre ce qu'est l'amour réel, mon amour, prince charmant, prince de ma vie. Les ombres m'ennuient. Vous êtes pour moi plus que l'art ne pourra jamais être. Qu'ai-je à faire des marionnettes du théâtre? Ce soir, je découvrais que j'étais incapable de faire quoi que ce fût. Cette révélation a été une merveille pour moi. Je les entendais siffler, je souriais. Que peuvent-ils savoir d'un amour comme le nôtre? Emmenez-moi, Dorian, emmenez-moi pour que nous puissions vraiment être seuls. Je hais la scène. Je peux singer une passion que je ne ressens pas, mais je ne peux en imiter une qui me brûle comme du feu. Oh, Dorian, Dorian, vous comprenez maintenant ce que cela signifie? Vous m'avez fait comprendre cela.
Il se laissa tomber sur le sofa et détourna le visage. Vous avez tué mon amour, balbutia-t-il. Elle le regarda stupéfaite. Elle vint à lui et lui caressa les cheveux de ses petits doigts. Elle s'agenouilla, lui prenant les mains, les pressa contre ses lèvres. Il les retira en frissonnant. « Oui, s'écria-t-il, vous avez tué mon amour. Vous m'excitiez l'imagination. Maintenant, vous n'excitez même plus ma curiosité. Vous ne me faites aucun effet du tout. Je vous aimais parce que vous étiez merveilleuse, parce que vous aviez le génie et l'intelligence, parce que vous réalisiez les rêves des grands poètes, parce que vous donniez forme aux fantômes de l'art. Vous avez rejeté tout cela. » Vous êtes creuse et sotte. Mon Dieu, comme j'étais fou de vous aimer. Quel imbécile j'ai été. Vous n'êtes rien pour moi maintenant. Je ne vous reverrai jamais. Je ne penserai jamais à vous. Je ne prononcerai jamais votre nom. Vous avez gâché le romanesque de ma vie. Sans votre art, vous n'êtes rien. Je vous aurais rendu illustre, magnifique, sublime. Le monde vous aurait voué un culte et vous auriez porté mon nom. Qu'est-ce que vous êtes maintenant? Une actrice de troisième ordre avec un joli minois. La jeune fille avait blêmi. Elle tremblait. Elle se laissa tomber à ses pieds et resta là comme une fleur foulée aux pieds. Elle gisait à terre comme une bête blessée, et Dorian, de ses yeux admirables, la regardait du haut tandis que ses lèvres se tordaient pour exprimer la quintessence du mépris. Il y a toujours quelque chose de ridicule dans les émotions de ceux que nous avons cessé d'aimer. Sibyl Vane lui semblait mélodramatique jusqu'à l'absurde. Ses larmes et ses sanglots l'agaçaient. Il pivota sur ses talons et sortit de la pièce. Quelques instants plus tard, il avait quitté le théâtre. Ce soir-là, de retour chez lui, Dorian découvre le secret diabolique de son portrait. Après sa rupture avec Sibyl, Dorian erre dans la ville nocturne, fasciné par la vie des prostituées et des miséreux. Il finit par rentrer chez lui, où, face à son portrait, il se sent soudain assailli de vains remords. Il comprend que son vœu s'est réalisé. Comme Faust, il a succombé à la tentation de la jeunesse éternelle. Mais il ne sait pas encore que son âme est damnée. Après un temps, il héla un fiacre et rentra chez lui. Pendant quelques instants, il traîna sur le seuil. Puis, ayant jeté son chapeau et sa cape dans le vaste hall d'entrée lambrissé de chêne, il traversa la bibliothèque en se dirigeant vers sa chambre. Comme il tourna la poignée de sa porte, son regard tomba sur le portrait que Basil Hallward avait peint de lui. Il eut comme étonné un mouvement de recul. Puis il entra dans sa chambre, semblant toujours perplexe. Ayant retiré la fleur de sa boutonnière, il sembla hésiter. Enfin, il retourna examiner le tableau. Dans la lumière terne, atténuée, qui arrivait à filtrer à travers les persiennes de soie de couleur crème, le visage lui parut un peu modifié. L'expression paraissait différente. On eût cru qu'il y avait une ombre de cruauté dans la bouche. Eh oui, c'était bizarre. Il fit volte-face, alla à la fenêtre et ouvrit la persienne. L'aube claire envahit la pièce, balaya les ombres fantastiques, les repoussant dans les coins ombreux où elles s'entassèrent en tremblant. Mais l'expression étrange qu'il avait remarquée sur le visage du portrait y demeura et sembla même s'intensifier. Le soleil qui palpitait lui montrait les rides de cruauté qui entouraient la bouche aussi clairement que s'il s'était regardé dans un miroir après avoir fait quelque chose d'affreux. Il tressaillit.
et prenant sur la table une glace ovale encadrée de cupidons d'ivoire, un des nombreux cadeaux que Lord Henry lui avait fait, il en scruta à la hâte les profondeurs polies. Aucune ride de ce genre ne déformait ses lèvres rouges. Qu'est-ce que cela signifiait ? Il se frotta les yeux, vint tout près du tableau et l'examina de nouveau. On ne voyait aucun changement dans la peinture elle-même, et pourtant l'expression en avait été indubitablement altérée. Ce n'était pas lui qui imaginait des choses. C'était terrible à voir. Il se jeta dans un fauteuil et médita. Soudain, ce qu'il avait dit dans l'atelier de Basil Hallward, le jour où le tableau avait été achevé, lui revint à l'esprit. Il avait exprimé un désir insensé, que lui-même restât jeune, tandis que le portrait vieillirait. Que sa propre beauté demeura sans tache, tandis que le visage sur la toile paierait le prix de ses passions et de ses péchés. Ce n'était tout de même pas son souhait qui avait été réalisé. De telles choses n'arrivent pas. Ne fût-ce qu'y penser semblait monstrueux. Et pourtant le tableau était devant lui, avec cette touche cruelle dans la bouche. Cruel. Avait-il été cruel ? C'était la faute de la jeune fille, pas la sienne. Il avait rêvé d'elle comme d'une grande artiste, puis elle l'avait déçue. Elle s'était montrée superficielle et indigne. Et pourtant, un sentiment d'infini regret lui vint quand il pensa à elle gisant à ses pieds et sanglotant comme un petit enfant. Il se rappela avec quelle dureté il l'avait regardée. Pourquoi lui avait-on donné une âme comme la sienne ? Mais il avait souffert, lui aussi. Sa vie, à lui, valait bien la sienne. Pourquoi s'inquiéter de Sibyl Vane ? Elle n'était plus rien pour lui, maintenant. Mais le tableau, que devait-il penser ? Il contenait le secret de sa vie et en racontait l'histoire. Il lui avait appris à aimer sa beauté. Lui apprendrait-il à détester son âme ? Le regarderait-il encore jamais ? Non, ce n'était qu'une illusion. L'horrible nuit qu'il avait vécue n'était pas partie sans laisser de fantômes. Et pourtant, le tableau l'observait, avec son beau visage abîmé et son sourire cruel. Un sentiment de pitié infinie, non pour lui-même, mais pour son image peinte, l'envahit. Elle avait changé et elle changerait encore. Ses ors se faneraient en grisaille, ses roses rouges et blanches mourraient. Pour chaque péché qu'il commettrait, une tache en maculerait la beauté. Eh bien, il ne pécherait plus. Le tableau, changé ou non, serait l'emblème visible de sa conscience. Il résisterait aux tentations. Il ne verrait plus Lord Henry, ou du moins il n'écouterait plus ses théories subtiles et vénéneuses qui lui avaient donné l'envie de choses impossibles. Il reviendrait à Sibyl Vane, il réparerait, il l'épouserait, il essaierait de l'aimer à nouveau. Oui, c'était son devoir. Elle avait souffert plus que lui, pauvre enfant. Il s'était montré égoïste et cruel envers elle. La fascination qu'elle exerçait sur lui reviendrait. Ils seraient heureux ensemble. Sa vie avec elle serait belle et pure. Il se leva de son fauteuil et plaça un grand paravent devant le portrait. Il y jeta un regard et fut pris d'un frisson. « C'est horrible, » murmura-t-il pour lui-même. Il alla à la porte-fenêtre et l'ouvrit. La fraîcheur du matin sembla chasser toutes ses passions obscures. Il ne pensait plus qu'à Sibyl. Un faible écho de son amour lui revint. Il répéta son nom encore et encore. Les oiseaux qui chantaient dans le jardin trempé de rosée semblaient parler d'elle aux fleurs. Et voici le moment où la vie de Dorian Gray bascule. Le lendemain de sa rupture amoureuse, Dorian Gray apprend la triste nouvelle. Sibyl Vane s'est suicidée. Sur les conseils de Lord Henry, le jeune homme décide de ne rien changer à sa vie mondaine afin de ne pas attirer les soupçons de la police. Il se plonge dans la lecture d'un mystérieux livre jaune offert par Harry. Comme le héros du roman, Dorian Gray se jette à corps perdu dans une vie de débauche et de luxure. Pour se donner bonne conscience, il cache son horrible portrait dans sa chambre d'enfant, à l'étage. Le temps passe. Des années plus tard, il rencontre par hasard un soir dans la rue le peintre Basil Hallward, qu'il avait perdu de vue et qui s'apprête à partir pour Paris. Dorian l'invite à passer un moment chez lui, mais très vite le ton monte entre les deux anciens amis. Je dois te parler et tu dois m'écouter. Tu m'écouteras. Il y a tant d'histoires selon lesquelles on t'aurait vu à l'aube sortir furtivement de mauvais lieux et te glisser déguisé dans les bouges les plus répugnants de Londres. Est-ce vrai? Est-ce que cela peut être vrai? Ne hausse pas les épaules comme ça. Tu exerces une grande influence sur les gens. On dit que tu corromps tous ceux dont tu deviens l'intime. Je ne sais pas si c'est vrai ou non. Comment le saurais-je? Mais on le dit de toi. Je me demande si je te connais. Avant de répondre à cette question, il faudrait que je voie ton âme. Voir mon âme? Balbutia Dorian Gray en devenant blanc de peur. Oui, répondit Hallward gravement, d'une voix empreinte d'une peine profonde. Voir ton âme. Mais cela, Dieu seul le peut. Tu la verras toi-même ce soir, s'écria soudain Dorian en saisissant une lampe sur la table. Viens, c'est ton ouvrage. Pourquoi ne le regarderais-tu pas? Viens, te dis-je. Tu as assez jacassé sur la corruption. Maintenant, tu vas la voir face à face. Je vais te la montrer, mon âme. Tu verras cette chose que, d'après toi, Dieu seul peut voir. Chaque mot qu'il prononçait était plein d'un orgueil dément. Il sentait une joie terrible à l'idée que quelqu'un partagerait son secret et que l'auteur du portrait qui était à l'origine de sa honte traînerait pendant le reste de sa vie l'horrible de ce qu'il avait fait. « Tu blasphèmes, Dorian !» s'écria Hallward. « Mon Dieu, ne me dis pas que tu es mauvais, corrompu, infâme. Nie ces horribles accusations qu'on porte contre toi. Nie-les !» Dorian Gray sourit. Sa lèvre s'incurvait de mépris. « Montons, Basil, dit-il tout bas. Viens avec moi. » Il quitta la pièce et commença à monter. Basil Hallward le suivait de près. Il marchait sans bruit comme on le fait instinctivement dans la nuit. La lampe projetait des ombres fantastiques sur le mur et l'escalier. Le vent qui s'élevait faisait bruire certaines fenêtres. Quand ils eurent atteint le palier supérieur, Dorian posa la lampe sur le sol et tirant la clé, la tourna dans la serrure. « Tu es le seul homme au monde qui ait qualité pour tout savoir de moi, Basil, » sourit Dorian. « Tu as été mêlé à ma vie de plus près que tu ne le penses. » Il ouvrit la porte et entra. Un courant d'air froid les accueillit si bien que la lampe émit soudain une flamme orange fondée. Hallward jeta un regard circulaire, l'air perplexe. La pièce semblait à l'abandon depuis des années. Comme Dorian Gray allumait une bougie à moitié consumée posée sur le manteau de la cheminée, Hallward découvrit un grand tableau voilé d'un rideau. Dorian arracha soudain le rideau et le jeta à terre. Une exclamation d'horreur s'échappa des lèvres du peintre lorsqu'il vit dans la lumière confuse le visage hideux qui grimaçait sur la toile. Son expression l'emplit de dégoût et d'horreur, juste ciel. C'était le vrai visage de Dorian qu'il regardait. Oui, c'était Dorian en personne. Mais qui l'avait peint? Il lui sembla reconnaître ses coups de pinceau. L'idée était invraisemblable et cependant il avait peur. Il saisit la bougie allumée et l'approcha du tableau. Dans l'angle gauche, son propre nom était tracé en longues lettres vermillon. C'était quelque répugnante parodie, quelque satire infâme, ignoble. Il n'avait jamais peint cela. Et pourtant, c'était son tableau. Pourquoi avait-il changé? Il se retourna et regarda Dorian Gray avec des yeux de malade. Dorian avait enlevé la fleur de sa boutonnière et feignait de la respirer. « Qu'est-ce que cela signifie ?» cria enfin Hallward. « Il y a des années, quand j'étais un enfant, » dit Dorian en broyant la fleur dans sa main, « tu m'as rencontré, flatté et appris à être vaniteux de ma beauté. Un jour, tu m'as présenté à un de tes amis qui m'a expliqué le miracle de la jeunesse. » Et tu as fini un portrait de moi qui m'a révélé le miracle de la beauté. Dans un instant de folie, je ne sais toujours pas si je le regrette ou non, j'ai fait un vœu. Je m'en souviens. Oh, je m'en souviens parfaitement. Non, c'est impossible. Je ne crois pas que ce soit mon tableau. Ceci est le visage d'un satyre. C'est le visage de mon âme. Dieu, à quel monstre ai-je donc voué mon culte? S'exclama Basile. Il a des yeux de démon. « Chacun d'entre nous porte le ciel et l'enfer en lui, Basil !» s'écria Dorian avec un geste fou de désespoir. Dorian regarda le tableau et soudain un sentiment de haine incontrôlable pour Basil Hallward l'envahit, comme suggéré par l'image de la toile. Un objet brillant sur le manteau de la cheminée attira son œil. Il savait ce que c'était. C'était un couteau qu'il avait apporté là quelques jours plus tôt. Il s'en approcha lentement, dépassant Hallward qui s'était assis à une table, la tête entre les mains. Il se glissa derrière lui, saisit l'objet et pivota. Dorian Gray se précipita sur lui et lui plongea le couteau dans la grande veine qui se trouve derrière l'oreille, lui écrasant la tête sur la table, frappant et frappant encore. Il eut un gémissement étouffé et l'horrible nuit d'un homme étouffant dans son sang. Il le poignarda encore deux fois, mais l'homme ne bougeait plus. Des gouttes se mirent à tomber sur le plancher. Il attendit un moment, pesant toujours sur la tête. Puis il jeta le couteau et tendit l'oreille. Il n'entendait que les gouttes tombant une à une sur le tapis râpé. Il ouvrit la porte et passa sur le palier. Un silence absolu régnait dans la maison. Avec quelle rapidité c'était arrivé. Dorian Gray se sentait étrangement calme. Il ne regarda même pas l'homme assassiné. Il sentait que le secret de la situation était de n'en pas prendre conscience. L'ami qui avait peint le portrait auquel il devait tous ses malheurs était sorti de sa vie. Voilà tout. Avançons encore dans l'intrigue du roman et dans le temps. Quelques mois plus tard, les journaux évoquent l'inquiétante disparition du peintre Basil Hallward. Plus machiavélique que jamais, Dorian Gray avait pris soin de faire disparaître son corps, puis il avait repris sa vie oisive et luxueuse. Le voici un soir après dîner en compagnie de Lord Henry qui lui demande de jouer du piano comme la première fois où il l'avait vu, chez Basil, avant qu'il ne se mette à poser. « Joue-moi quelque chose, joue-moi un nocturne de Chopin, Dorian. Et tout en jouant, dis-moi tout bas comment tu as fait pour conserver ta jeunesse. » Tu dois avoir un secret. Je n'ai que 10 ans de plus que toi et je suis ridé, usé, jauni. Toi, tu es merveilleusement beau, Dorian. Tu me rappelles le jour où je t'ai vu pour la première fois. Tu étais très timide et complètement extraordinaire. Tu devrais me donner ton secret. Pour retrouver ma jeunesse, je ferais n'importe quoi au monde, sauf de l'exercice, me lever tôt ou mener une vie respectable. La jeunesse. Ah, Dorian, que tu es heureux. Quelle vie délicieuse a été la tienne. Tu t'es abreuvé de tout. Et tout cela n'a été pour toi que de la musique. Tu n'en as pas été abîmé. Tu es toujours le même. Je ne suis plus le même, Harry. Si, tu es le même. Je me demande ce que sera le reste de ta vie. Ne la gâche pas en renonciation. Aujourd'hui, tu représentes un type à la perfection. En ce moment, il n'y a pas en toi le moindre défaut. Ne secoue pas la tête, tu sais que c'est vrai. J'aimerais pouvoir changer de place avec toi, Dorian. Le monde nous a critiqués tous les deux, mais il t'a toujours voué un culte. Il t'en vouera toujours un. Tu es le type même de ce que notre siècle cherche et craint d'avoir trouvé. Je suis si content que tu n'aies jamais rien fait, jamais sculpté une statue ou peint un tableau ou produit quelque chose qui ne serait pas toi. La vie a été ton art. Tu t'es mis toi-même en musique. Que dirais-tu, Harry, si je t'annonçais que j'avais assassiné Basil, fuit soudain Dorian? Il y eut comme une dissonance. Lord Henry sursauta. Il regarda son ami étonné en haussant les sourcils. « Je dirais, mon cher vieux, que tu te donnes des airs d'un personnage qui ne te va pas. Tout crime est une vulgarité, comme toute vulgarité est un crime. Cela n'est pas dans tes capacités, Dorian, de commettre un assassinat. Je suis désolé si je froisse ta vanité en disant cela, mais je t'assure que c'est vrai. Le crime appartient exclusivement aux classes inférieures. J'imagine que le crime est pour eux ce que l'art est pour nous, simplement une méthode pour se procurer des sensations sortant de l'ordinaire. » Et puis j'imagine que c'est toujours une erreur d'assassiner quelqu'un. On ne devrait jamais faire quoi que ce soit dont on ne puisse parler après dîner. Pourquoi as-tu cessé de jouer, Dorian? Retourne au piano et rejoue-moi ce nocturne. Regarde dehors cette grande lune couleur de miel suspendue dans l'air crépusculaire. Elle attend que tu la charmes Et si tu joues, elle se rapprochera de la terre. Tu ne veux pas? Alors allons au club. La soirée a été charmante et il faut la terminer de façon charmante.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
What part art thou who from below hast made me rise unwilling?
Voici l'épilogue de l'histoire. De retour chez lui, tard dans la nuit, Dorian Gray se laisse aller au désespoir. Il retourne sur les lieux du crime et monte dans sa chambre d'enfant, à l'étage, qui abrite toujours son portrait, défiguré par les traces de ses péchés. C'est là qu'il met un terme à sa terrible damnation. Voici la toute dernière page du livre. Cet assassinat le poursuivrait toute sa vie. Devrait-il toujours porter le poids de son passé ? Devrait-il vraiment avouer? Jamais. Il n'y avait encore contre lui qu'un seul élément de preuve, le tableau lui-même. Oui, c'était une preuve. Il le détruirait. Pourquoi l'avait-il gardé aussi longtemps? Jadis, il avait trouvé du plaisir à le voir changer et vieillir à sa place. Récemment, ce plaisir, il ne l'avait plus éprouvé. La nuit, il n'en dormait plus. Absent, il était terrorisé à l'idée que d'autres regards que le sien ne tombassent dessus. Ses passions en avaient été assombries de mélancolie. Le souvenir en avait gâché bien des moments joyeux. Le portrait avait été comme sa conscience. Il le détruirait. Il regarda autour de lui et vit le couteau qui avait poignardé Basil Hallward. Il l'avait nettoyé bien des fois. Il était clair. Il luisait. Comme il avait tué le peintre, il tuerait l'ouvrage du peintre et tout ce qu'il signifiait. Il tuerait le passé, et quand le passé serait mort, Dorian Gray serait libre. Il saisit l'objet et en poignarda le tableau. Il eut un cri et un bruit de chute. Ce cri de mort fut si horrible que les domestiques apeurés s'éveillèrent et quittèrent leur chambre dans le noir. Deux messieurs qui passaient sur la place en bas s'arrêtèrent et levèrent les yeux sur la grande maison. « À qui est cette maison, monsieur l'agent ?» demanda l'un d'eux à un policier qui passait dans la rue. « À monsieur Dorian Gray, monsieur, » répondit celui-ci avant de poursuivre son chemin. Ils échangèrent un regard et s'éloignèrent à leur tour. À l'intérieur, dans les communs, les domestiques habillés se parlaient en chuchotant tout bas. Ils montèrent l'escalier, frappèrent, mais il n'y eut pas de réponse. Ils crièrent, tout restait silencieux. Enfin, après avoir essayé en vain de forcer la porte, ils grimpèrent sur le toit et sautèrent sur le balcon. Les fenêtres cédèrent facilement. En entrant, ils trouvèrent pendu au mur un magnifique portrait de leur maître, tel qu'ils l'avaient vu pour la dernière fois, dans toute la splendeur de son exquise jeunesse et de sa beauté. Gisait à terre un vieillard en tenue de soirée, un couteau dans le cœur. Il était flétri, ridé, son visage était répugnant. Ce ne fut qu'en examinant ses bagues qu'ils le reconnurent.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission réalisée par Xavier Pestudia avec Romain Lenoir à la technique a été préparée par Estelle Gaplorel-Maki et Irène Menahem. Merci. We'll be right back.